du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver, bienvenue dans ce numéro 685 du Coq à l'âne avec les coqualiens Jean-Claude Hérault, Jean Coin, Pierre-Louis Rouni et oui. Bruno André. Salut tout le monde.
Revenons très rapidement sur la pandémie. Je voulais aborder un sujet parce que c'est quelque chose dont on parle souvent. Ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. L'ESS. Et en fait, on en parle beaucoup. Mais
c'est Jean-Claude qui en parle beaucoup.
Le problème, c'est que... Alors, je ne vais pas interviewer Jean-Claude tout de suite, mais est-ce que vous savez ce que c'est l'économie sociale et solidaire ?
Oui, c'est l'économie qui existe...
sociale et solidaire.
Depuis longtemps, avant que certains s'en attribuent le nom. Non, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord sur tout avec.
C'est pas grave.
Non, mais enfin.
Moi, je développerai après, si vous
voulez. En disant que moi, c'est jouer à la marchande, voilà.
Jouer à la marchande.
Oui, c'est-à-dire faire simuler l'économie réelle.
Ah d'accord, ok. Ah bah ça c'est un axe, on pourra en parler. Et toi ?
Moi je suis plutôt de l'avis de Pierre-Louis.
D'accord.
Hein, ça existe depuis très longtemps, mais c'est vrai que je trouve que Jean-Claude s'en est un peu accaparé.
C'est ma fête aujourd'hui.
C'est ta fête.
Non mais quand j'ai regardé,
c'est
qui
la Saint Jean-Claude.
C'est que des amis.
J'ai failli pas venir parce que j'ai dit c'est un piège. Ils m'ont tendu piège et comme un con j'y vais dedans quoi.
Mais c'est que vous n'avez pas le monopole.
Mais personne n'a le monopole de rien.
Et moi j'ai fait que tu pratiquais régulièrement depuis deux jours. En particulier à l'hôtel du cours à Sisteron.
Oui.
C'est bien l'économie sociale comme ça.
Oui, mais bien sûr.
Ça fait des pauses.
J'imagine que dans l'économie capitaliste, quand vous faites des pauses entre, vous faites bien des pauses repas, ben vous mangez.
J'ai raison.
Donc.
Parce que tu fais des pauses économie sociale et solidaire.
On mange et on fait travailler des acteurs de l'économie capitaliste.
Oui.
Sans aucun problème.
Exactement, tout à fait.
C'est la complémentarité. Complémentarité entre les deux, il ne faut pas opposer les uns aux autres.
Allez, petite définition de l'économie sociale et solidaire et solidaire et sociale.
Ben, l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord plusieurs familles, la famille mutualiste, les associations, les coopératives et les fondations. Dans le département des Hautes-Alpes, il y a 20% des emplois privés qui sont de ressort de l'économie sociale et solidaire. Et la particularité, c'est une gestion un peu différente que dans le secteur privé.
Est-ce qu'on peut dire que c'est à but non lucratif ?
Oui, c'est à but non lucratif. Et au niveau démocratie, ben, il y a forcément des conseils d'administration. Mais dans le secteur dit capitaliste, puisque je taquine un peu, il y a aussi une forme de fonctionnement démocratique. Hein. Mais là,
c'est un fonctionnement participatif.
Participatif. Et puis, il y a des obligations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas relever de l'économie sociale et solidaire si on ne respecte pas la démocratie, le fonctionnement démocratique. Tu l'as dit, à but non lucratif, il y a un certain nombre de choses.
Je notais quand même que, mine de rien, l'ESS représente... plus de 11% des effectifs salariés en France.
Oui, et 20% de l'emploi privé dans les Hautes-Alpes, ce qui explique une forte présence.
C'est quand même assez énorme.
C'est ça le traitement social du chômage.
Il y a en partie, il n'a pas totalement tort, puisque les entreprises d'insertion par l'économie vont dans le sens de ce que dit Jean, le traitement social du chômage, et c'est très bien. Ça permet de ramener à
les gens qui sont... en dehors du secteur, de revenir dans le marché.
De revenir dans l'activité dite normale. Mmh. Et donc, mais c'est qu'une partie de l'économie sociale et solidaire.
Sans doute.
Je pense qu'à l'origine, il y a la loi de 1901 sur les associations. Et la France est le pays des associations. Par voie de conséquence, il y a un développement, je dirais, extraordinaire de cette forme d'économie. Mmh. Qui, moi, je me plaisante avec ça, mais je pense que c'est très complémentaire, on va dire.
Nécessaire.
Oui. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je dis souvent aux gens, pour leur expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, en fait, on fait appel à l'ESS sans le vouloir, sans le savoir. Par exemple, je ne sais pas, si on fait appel à une personne qui vient vous aider, j'arrive pas à trouver le mot, une aide médicale.
Une auxiliaire de vie.
Une auxiliaire de vie, voilà, et merci. Et ben, c'est souvent des gens qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, si c'est l'ADMR.
Oui. Ah, c'est ça.
Ben voilà, si vous adhérez à une mutuelle qui relève du code de la mutualité, c'est de l'économie sociale et solidaire. Je pourrais donner X exemples. La Fondation Edith Selzer, aujourd'hui, c'est la plus grosse entreprise du secteur privé des Hautes-Alpes.
À Briançon.
À Briançon. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est adhérente à l'UDES.
Est-ce que une entreprise ou une association comme La Petite Ours, ça fait partie
bien sûr,
de ça?
C'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est les entreprises d'insertion par l'économie. Effectivement, La Petite Ours qui joue un rôle important, hein, on le sait. Et c'est aussi de l'économie sociale et solidaire.
Moi,
et donc,
moi voilà. C'est l'adjectif solidaire qui ne me convient pas parce que, par contre, social me convient tout à fait parfaitement puisque en latin, social, socius, ce sont les alliés. Donc on peut être allié, mais on n'est pas forcément solidaire.
Oui, bon, c'est. Alors là, il y a toute une histoire. On ne va pas embêter les auditeurs et
non,
les
non, auditrices bah non, avec ça. Non, non, parce qu'on a d'autres sujets aussi.
Avant de s'appeler économie sociale et solidaire, il y a eu plusieurs
dénominations.
La loi Hamon, qui est la dernière loi qui a été votée sur l'ESS, a effectivement permis de faire en sorte que cette économie soit mieux reconnue que ce qu'elle était avant. Mmh. Et surtout mieux organisée.
Alors, Pierre-Louis, t'avais l'air un petit peu, enfin, pas pour, c'est... pas contre, mais pas pour. C'est quoi ta position? Qu'est-ce qui te gêne?
Il y a plein de choses qui me gênent, mais je suis quand même respectueux de tout le travail qui est fait par toutes ces structures. Il n'y a pas de souci. Ce qui me gêne, il y a le mot aussi solidaire qui me gêne un peu plus que social. Je suis gêné quand ces activités, ces associations sont sur des secteurs marchands. Et en fait, elles ont trouvé une légitimité à être sur ces secteurs marchands, justement en s'appelant économie sociale et solidaire. Ouais. Ça me gêne pourquoi ? Parce que ça tord le marché. Pourquoi le mot solidaire me gêne surtout ? Parce que quelque part, une entreprise classique par rapport à une association, elle est forcément un peu plus solidaire puisqu'elle paye déjà un impôt sur la société que l'association ne va pas payer. Donc quelque part... elle est un peu plus solidaire
de
faux, d'accord.
Moi, je suis président d'une mutuelle qui paye
un
paye
impôt comme, sur la société. Bah,
comme toutes les entreprises du secteur.
Un impôt sur le bénéfice.
Bien sûr. Tous les impôts.
Une association de
loignée. Mais moi, je parle d'une mutuelle. Ce qu'il faut ce qui n'a pas été dit, qui est fondamental à savoir au départ, excuse-moi de te couper.
C'est pas grave, je reprendrai le fil après.
Il y a une grande diversité dans l'ESS. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui sont dans le secteur marchand, comme tout le mouvement mutualiste qui relève du code de la mutualité, qui sont dans le secteur marchand et qui ont les mêmes contraintes. Nous, les contraintes qu'on a, c'est par exemple, on va être contrôlé. Mais
qu'est-ce qui te différencie des entreprises classiques?
Ce qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire. Moi, je suis un président d'une mutuelle, je suis un président bénévole.
D'accord.
Je suis pas salarié.
Où vont les résultats?
Les résultats, ils sont toutes les années, ils sont soit réinvestis, soit on améliore le traitement des salariés quand on peut. Hein, c'est-à-dire, on peut une année, on avait versé une prime exceptionnelle parce qu'il y avait une année exceptionnelle. Mais
ça, bon, les entreprises le font, mais
on va pas financer.
C'est la différence entre.
On n'a pas d'actionnaire.
D'accord. Donc voilà. En fait, au lieu de partir dans les poches pour être cru de certains actionnaires qui vont, en l'empochant d'ailleurs, payer un impôt en plus, hein, puisqu'il faut le payer.
Normal.
Là, ça reste dans la structure et c'est réinvesti. C'est tout à fait noble et ça ne me dérange pas. Tout à l'heure, tu parlais quand même des entreprises ou des associations qui travaillent notamment avec des auxiliaires de vie. Là, il y a distorsion sur le marché, puisqu'il y a des entreprises privées, personnellement j'en dirige une, qui se retrouvent donc sur un marché.
Tu veux dire que tu es impacté?
Mais ça ne me dérange pas parce que chacun
a
sa...
La concurrence, c'est qui, toi?
C'est pas de la... Non, mais je vais pas appeler ça de la concurrence parce qu'on n'est pas vraiment sur le même marché, parce que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais si je me mettais sur le même marché que la DMR, je me retrouverais effectivement avec une concurrence qui serait un peu déloyale parce que quelque part, moi, j'ai des impôts et des charges que eux n'ont pas. Voilà. Et là où je trouve ça un peu gênant parce que si je prends la DMR, ça m'embête de citer qu'elle, mais elle a suffisamment écrit des pages d'histoire qui servent notre population, hein, parce que la DMR au départ, par exemple, c'est une entreprise c'est une association qui est là pour servir des personnes qui ont des besoins d'aide dans le milieu rural, c'est son nom. Et effectivement, elles ont vocation à être là où des entreprises privées n'auraient pas d'intérêt à le faire et même seraient en déficit et donc ne pourraient pas tenir. Et là, je trouve que c'est assez remarquable dans notre pays d'avoir
des structures qui travaillent comme ça.
Sauf que la DMR, et on peut pas lui en vouloir parce que finalement, elle a les mêmes obligations quelque part de rentabilité qu'une entreprise normale, sinon elle va pas tenir. Oui. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire de la distorsion parce qu'elle va aller sur un marché qui est la grande ville, si notre département c'est Gap, où elle va se retrouver avec des tarifs qui ne seront pas les mêmes que d'autres. Et comme on est dans un milieu qui est un peu compliqué parce que ceux qui bénéficient de l'ADMR, c'est pas que les gens qui ont les moyens de se payer une auxiliaire de vie, c'est tout le monde. Et dans ces tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer un euro de cette aide. Et donc, il y a des organismes publics qui vont subventionner ces prestations. Et donc forcément, le marché étant tiré vers le bas, la subvention, elle est vers le bas. Et tant mieux pour nos impôts, pour tout le monde. Mais si tu veux, il y a cette distorsion, elle avantage tout le monde, sauf les entreprises privées, qui se retrouvent dans une situation finalement d'être à terme dans le rouge et ne pas pouvoir tenir par rapport à l'ADMR, qui ne fait plus ce pourquoi elle a été inventée.
Au départ.
Aller rendre des services dans des milieux où effectivement une entreprise privée ne peut pas le faire.
Il faudrait que vous invitiez mon ami José Orsini, qui est le président de la Fédération de la DMR des Hautes-Alpes. Lui, il t'expliquerait dans les détails comment ça se passe.
Il aurait raison.
Dans le détail de la gestion. Ce que je sais, s'il n'y avait pas la DMR, et tu l'as dit toi-même, il n'y aurait pas d'auxiliaire de vie en zone rurale. Et nous, on est essentiellement en zone rurale. Et aujourd'hui, on doit beaucoup à la DMR. Après, la DMR, si elle survit pas, effectivement, si elle n'est pas présente dans les zones où elle peut faire un peu de marge, elle va disparaître. Alors on va faire appel à ce que tu as dit, au financement public. Mais alors, financement public, c'est toujours les mêmes qui payent.
Moi, je préférerais finalement payer des impôts pour que l'ADMR puisse se maintenir dans des conditions acceptables, dans des endroits où les entreprises n'ont pas vocation ou intérêt à y aller, plutôt que obliger l'ADMR, parce qu'on leur a sucré des subventions qu'elles avaient avant et qu'elles n'ont plus, à aller dans un milieu qui n'est pas le milieu rural, parce qu'il y a de la distorsion. Après, sur la partie sociale, et j'en terminerai là pour pas monopoliser la parole, mais nous avons... Oui, je sais, ouais. Titi m'a invité, j'ai dit ok, je trouve du temps.
Ça fait un bail qu'on l'a pas eu, on peut lui laisser un peu la parole.
Il était confiné.
Nous avons, dans nos structures, entreprises de propreté et entreprises de service à la personne, des salariés qui travaillent dans ces structures d'insertion. Et c'est assez curieux de considérer que certaines jouent une part sociale que nous ne jouons pas, alors qu'on insère les mêmes personnes. Je pourrais vous donner des preuves. C'est assez curieux parce que quelque part, on se dit, tant que ces structures ne portaient pas ce nom, nous, on ne se vantait pas de faire de l'insertion. Mais à partir du moment où ces structures arrivent et qu'elles se... le mot vanter, il n'est pas juste parce que c'est péjoratif, mais se qualifie comme des entreprises d'insertion. Du coup, nous, on n'en est plus, alors qu'on l'a toujours été. Et comme on ne l'a jamais dit, on ne peut plus l'être.
Voilà. Mais rien ne t'empêche de transformer ton entreprise en entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mais moi, je pense que Jean a dit l'essentiel. La richesse du système, et moi, je rejette pas le système capitaliste, et je n'oppose pas les uns aux autres, c'est la complémentarité. En France d'avoir un réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et qui est reconnu aujourd'hui. Je vous donne un exemple concret. Hier, je représentais l'UDES à la cellule économique qui se réunit sous l'organisation sur l'animation de Madame la Préfète tous les jeudis, un jeudi sur 15, je représente les entreprises de l'ESS qui sont aussi des acteurs économiques. Mais nous, on n'oppose pas les uns aux autres. Nous, on a une mission qui est une mission différente que ce que peut avoir une entreprise capitalistique classique. Mais je pense que c'est là la complémentarité du système. Il faut pas les opposer.
On ne les opposera pas, mais c'était bien d'avoir cette petite discussion sur l'ESS.